Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre-Étienne Drolet. Il est biologiste, coordonnateur de projet également au COBALI. Si vous ne connaissez pas le COBALI, ben mon Dieu, c'était le temps que vous nous écoutiez. Ça fait un bout de temps qu'on vous en parle du COBALI. C'est un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Allô, Pierre-Étienne.
Salut, Patrick.
Aujourd'hui, on parle d'algues bleues.
Ben oui, même si on est l'automne,
ben
on
oui,
peut en parler
surpris.
Pareil. Fait que, ben oui, on va parler d'algues bleues, puis en premier lieu, ben on va clarifier un petit peu le vocabulaire, hein, comme j'aime bien le faire souvent, puisque dans les médias, puis les gens, en général, là, on parle d'algues bleues, mais on peut aussi parler un petit peu plus scientifiquement de cyanobactéries ou d'algues bleues vertes, c'est toute la même affaire.
Sais-tu, pour un animateur de radio, algues bleues, c'est un peu plus facile à se souvenir.
C'est ça, fait qu'on va garder ce mot-là, ça va être plus simple comme ça.
OK. Est-ce qu'il y a une différence? C'est la même affaire.
C'est la même chose. Mais par exemple, on va aussi en profiter pour distinguer c'est quoi la différence entre une algue puis une plante aquatique. Attention, il y a une subtilité.
OK. Bon, ben tu fais bien parce que moi, bon, qui n'est pas connaisseur là-dedans, j'aurais pensé qu'une algue, c'est quand même une plante aquatique.
Oui. Ben en fait, là, une plante aquatique, c'est une véritable plante, hein, comme un arbre ou comme nos fleurs de jardin, là, mais adaptée à la vie aquatique.
OK.
C'est l'exemple type, c'est le nénuphar là, que tout le monde connaît. Ça a une tige, des feuilles, des racines, ça fait même une fleur. Fait dans le fond, les plantes aquatiques, c'est un petit peu ce qui fait nos forêts dans l'eau, dans nos lacs.
OK, parfait. Les algues maintenant.
Ben, les algues, là, sauf exception, c'est des organismes qui sont unicellulaires, donc très petits, et généralement, c'est invisible, là, sauf quand il y en a vraiment beaucoup. À l'occasion, par exemple, il y a des espèces qui peuvent former des colonies. Fait que là, ça ressemble à de la mousse verte ou brune qui fait un genre de tapis sur les roches,
okay,
dans le fond de l'eau. Là.
Ouais.
Ou ça peut aussi flotter à la surface.
Donc, c'est ça qui est un peu gluant sur les roches d'habitude, ça?
Ouais, c'est en plein ça. Fait que soit que ça fait le gluant sur les roches, comme on dit, ou c'est des filaments là, qui flottent sur l'eau.
OK.
Mais dans le cas des algues bleues, on peut pas vraiment les prendre dans nos doigts, là, c'est juste des minuscules bactéries, puis ça forme pas des colonies.
OK.
Mais par contre, ça fait de la photosynthèse comme les algues, hein, donc ça a besoin du soleil comme n'importe quelle plante. Puis ben, ça fait partie des plus vieilles formes de vie sur Terre, ça. C'est résistant, c'est là depuis des milliards d'années là, sur Terre.
OK.
Puis les algues bleues, c'est naturellement présent dans tous nos lacs.
OK, ben là, si c'est là depuis pas mal tout le temps, c'est quoi le problème?
Ben le problème, c'est quand ça commence à proliférer, puis que ça fait ce qu'on appelle une fleur d'eau, ou un bloom en anglais.
OK.
Fait que là, à ce moment-là, ça fait un problème parce que la couleur de l'eau va changer, puis ça peut devenir jusqu'à être comme de la peinture verte.
Ah ouais.
Ou
pas excitant.
Encore pire, une espèce de soupe au brocoli un peu dégueu. Là.
Parle pour toi, moi je pense que je trouverais ça le fun, la soupe au brocoli, mais à manger seulement.
Puis souvent, mais les vents vont pousser les algues bleues, puis ça va s'accumuler là, dans une baie ou sur un côté du lac, puis il peut y en avoir vraiment beaucoup. Puis ben, en fait, le problème avec les algues bleues, c'est qu'en plus de ne pas être très agréable se baigner, ben ça peut produire des toxines dangereuses là, pour système ben oui. Nerveux, foie. Puis la peau.
C'est quasiment mieux que ça soit pas agréable à se baigner. Comme ça dit de pas y aller.
Ouais, dans le fond, une chance qu'on peut le voir. Là. Fait qu'en en présence de ce phénomène-là, ben il faut pas toucher à l'eau, puis évidemment, ne pas la boire, là, parce que même en faisant bouillir l'eau, ça détruit pas les toxines.
Oh, ça reste?
Ça reste quand même.
Ah, ça, c'est le bout qui m'inquiète un peu plus. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on fait si on se lève un matin, puis que... Bon... Notre lac, il est pas mal rendu format soupe au brocoli, là.
Oui. Ben, premièrement, le premier réflexe, c'est tout le temps de communiquer avec la municipalité, parce que c'est elle qui peut rejoindre les citoyens le plus facilement. Nous, au COBALI, c'est une bonne idée de nous le signaler aussi. Puis éventuellement, on va penser aussi à le signaler au ministère de l'Environnement.
OK.
Tu sais, vers 2007, là, c'était comme les grosses années, là, c'était la crise des algues bleues, on entendait beaucoup parler.
Tous les jours, nouvelles.
Tout le temps. Depuis ce temps-là, c'est pas mal moins dans l'actualité, mais c'est encore un problème qui est encore là.
Est-ce que quand même, là, évidemment, le Québec, c'est grand, puis chaque région est un peu différente, mais est-ce que ce problème-là a un peu diminué? Est-ce qu'on en a un peu moins quand même?
C'est dur à dire, parce que les gens les signalent plus, sont plus au courant.
Ah, OK.
Fait que par rapport à 2007, c'est dur de dire, est-ce qu'il y en a plus ou moins vraiment, parce que...
Il y en a à bien des places, mais ça dérape moins peut-être, parce qu'on les signale.
Oui, ben, sont plus signalés, puis les gens sont mieux informés. Puis d'un autre côté, ben, on a pris aussi plein de mesures pour lutter contre ça. Donc, okay. Est-ce que ça a vraiment diminué? On le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a encore régulièrement. Là.
OK.
Donc, fait que, tu sais, les meilleures conditions pour des algues bleues, là, c'est un lac qui est riche en éléments nutritifs. Puis surtout si on a un printemps venteux là, qui va brasser le fond du lac, qui va ramener des nutriments.
Ouais.
Puis après ça, ben, durant l'été, les températures chaudes, là, on a le meilleur mix pour nos algues bleues.
Et essentiellement, on a quand même eu un bon mix cet été aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire si, un, on a fait l'étape de signaler, on a quand même déjà été un bon citoyen, comme riverain, là, parce qu'il y a plein de gens qui habitent près d'un cours d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire comme riverain?
Ben, je m'arrange pour arrêter d'engraisser le lac en éléments nutritifs, comme on dit.
Donc, OK, exemple.
Pas d'engrais au bord du lac. Évidemment, je m'arrange pour que mon installation septique fasse son travail.
Oui, ça, s'il vous plaît.
Jamais une mauvaise idée. Puis évidemment, le plus de végétaux possible au bord de l'eau, la fameuse bande riveraine.
Ouais.
Puis enfin, je m'arrange plutôt pour éviter que la terre de mon terrain se ramasse dans l'eau. Fait que si je fais des travaux là, puis qu'il y a du sol qui est à nu, ben je m'arrange pour pas que la terre aille dans le lac.
Et avec une bonne bande riveraine, déjà, on enlève une partie de ces possibilités-là. Là, mais évidemment, il faut faire attention parce que des fois, c'est des plus gros projets quand même. OK, parfait, vous avez tous les conseils. D'ailleurs, si vous êtes arrivé un petit peu en retard sur cette chronique-là et vous voulez en apprendre un peu plus, vous n'avez pas besoin nécessairement d'appeler Pierre-Étienne Drolet tout de suite. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la chronique un peu plus tard cet après-midi sur le cflo.ca. Elle sera là au grand complet. Aujourd'hui, on est avec Pierre-Étienne Drolet, biologiste, coordonnateur de projet également au COBALI. Merci, Pierre-Étienne.
Ça fait plaisir. À la prochaine, Patrick.